tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offrent des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture, vous entendrez de King Crimson, In the Court of the Crimson King.
Des villes au service de la vertu, par Benoît Bréville. Inspiré par un géographe américain, les grandes villes misent désormais sur les travailleurs intellectuels, issus du monde des nouvelles technologies, de l'art, de la finance ou des médias, pour se développer et accroître leur compétitivité. Les classes créatives, attirées par les centres urbains pensés pour elles, se sont implantées au cœur des métropoles, évinçant les couches populaires. Peu connu du grand public et largement décrié par ses pairs, Richard Florida, professeur à l'Université de Toronto, jouit depuis une quinzaine d'années d'une influence considérable en matière d'urbanisme. Sa théorie, ressassée depuis le succès en librairie de The Rise of the Creative Class, est assez simple. La vieille économie, industrielle, productive, extractive, est appelée à disparaître pour laisser place à une économie créative. Pour les villes, l'objectif ne serait donc plus d'attirer des entreprises, en construisant des autoroutes et des centres de conférences, en offrant des avantages fiscaux et des subventions, mais bien de faire venir des talents, ceux qui innovent, inventent, ou plus largement, utilisent leur capital intellectuel pour générer de la richesse. Les artistes, les ingénieurs, les journalistes, les architectes, les têtes pensantes de l'administration, les financiers, les juristes, les chercheurs, les informaticiens, les médecins. Selon Richard Florida, qui n'hésite pas à compter large, la classe créative représenterait 30% de la population active américaine, mais 70% du pouvoir d'achat. Pour attirer cette crème de la crème, l'économiste propose une solution clé en main. Modeler la ville à leur image. Souvent jeune et bien payée, cette population ne souhaiterait plus s'installer en banlieue, comme les anciens cols blancs, mais priserait au contraire les centres-villes dynamiques, à l'européenne, où elle peut se rendre au travail à vélo, trouver un restaurant ouvert à 3 heures du matin, consommer des produits équitables. Elle apprécierait en particulier la vitalité des rues, les cafés indépendants, les arts, la musique, les activités de plein air, ainsi que de vivre avec des personnes d'origine diverse. Les municipalités désireuses de tirer leur épingle du jeu devraient donc se plier à ces exigences et transformer leur image en construisant des pistes cyclables, des salles de concert et des musées, en luttant contre les discriminations, en finançant des universités de haut niveau. Richard Florida a empaqueté sa théorie en parlant des trois T du succès économique, la tolérance, le talent et la technologie. Puis, mélangeant des données disparates, proportion de couples homosexuels, d'étrangers et de minorités visibles, nombre de brevets déposés de start-up par des diplômés, il a établi des indices, indices gay, bohème, talent, et des palmarès qu'il met à jour régulièrement pour que les villes suivent leur progrès et qu'il a étendu à l'Europe et au Canada pour gagner de nouveaux marchés. Cette méthode a immédiatement séduit les membres de la classe créative, ravi d'être présenté comme la solution aux problèmes du pays. Les médias, les décideurs publics, les chefs d'entreprise ont encensé Richard Florida, qui fut convié à donner des conférences aux quatre coins du monde. Ses préconisations ont fini par acquérir le statut de bonne pratique dans la compétition urbaine internationale. De Sydney à Paris, de Montréal à Berlin, toute métropole se veut désormais dynamique, innovante, intelligente, créative, durable, connectée. espérant y trouver une voie de salut face à la désindustrialisation. Des dizaines de villes américaines ont fait appel à ses services et à sa société de conseil, le Creative Class Group. D'autres municipalités, déjà engagées sur le chemin créatif, se sont senties confortées dans leur choix et ont redoublé d'efforts pour attirer des travailleurs intellectuels. C'est le cas de Seattle. La cité émeraude et sa région ont longtemps vécu de la vieille économie. L'exploitation du bois, abondant dans les environs. La construction navale et l'activité portuaire, grâce à l'un des ports les plus importants d'Amérique du Nord. Et surtout, l'industrie aérospatiale, avec le fleuron local Boeing, qui connut ses années fastes après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les entreprises ne clamaient pas leur amour de la diversité, mais les salaires confortables qu'elles proposaient avaient permis la consolidation d'une classe moyenne noire. En 1970, 49% des ménages afro-américains de King County, le comté où se trouve Seattle, possédaient leur logement, soit un taux supérieur à la moyenne nationale, toute population confondue, 42%. Ils ne sont plus que 28% aujourd'hui. C'est à cause du boom des nouvelles technologies, affirme M. John Fox, fondateur de la Seattle Displacement Coalition, qui lutte contre l'embourgeoisement de la ville depuis plus de 30 ans. Avec la crise des années 1970, Boeing a licencié des milliers d'ouvriers, de machinistes, d'ingénieurs. La population de la ville a commencé à décroître. Le marché de l'immobilier s'est effondré. Comme les terrains n'étaient pas chers, on a assisté à un afflux de capitaux privés visant à redévelopper le centre-ville. À partir des années 1980, des immeubles de bureaux ont poussé partout et un flot de jeunes professionnels, de couples sans enfants, s'est déversé sur la ville. Depuis 15 ans, dans cette guerre des talents, Seattle s'est imposée comme une compétitrice redoutable. Elle fait tout pour se conformer aux 3T. Son plan d'urbanisme autorise la reconversion des anciennes usines en bureaux clinquants pour salariés choyés, au profit desquels elle construit des pistes cyclables et favorise le développement de jardins partagés et biologiques. Les résultats sont au rendez-vous. Seattle a raflé à Austin, Texas, la 4e place du palmarès créatif 2012. Cette même année, le magazine de voyage Travel and Leisure lui a attribué le titre convoité de « Meilleure ville pour les hipsters », une distinction renouvelée 4 ans plus tard par la société d'études marketing Infogroup, dont l'indice hipster mesure le nombre de tatoueurs, de vendeurs de vélos, de cafés indépendants, de brasseries artisanales, de friperies et de magasins de disques.
Reconversion des anciennes usines en bureaux clinquants. Construction de pistes cyclables, développement de jardins partagés et biologiques.
Attirant des diplômés du monde entier, la ville connaît un accroissement démographique spectaculaire, qui s'est encore accéléré ces dernières années. Entre juillet 2015 et juillet 2016, 21 000 personnes sont arrivées, portant le nombre d'habitants à 700 000. Année après année, l'ancienne Jet City accueille une population toujours plus diplômée, aisée, blanche et masculine. Des ingénieurs, des informaticiens, des génies des algorithmes ou du marketing, des publicitaires qui travaillent à Amazon, Microsoft et Starbucks, dans les centres d'ingénierie de Google et de Facebook, ou encore dans l'une des nombreuses startups locales. Selon le dernier recensement, on comptait à Seattle 118 hommes âgés de 25 à 44 ans, pour 100 femmes de la même tranche d'âge. Dans certains quartiers, comme le Central District, la part de la population noire est passée de 73% en 1970 à moins de 20%. Seattle s'est toujours définie par opposition au modèle de la Silicon Valley, où les géants de l'Internet sont à quelques exceptions près installés en banlieue, dans des complexes autarciques, avec restaurants, coiffeurs, salles de sport et cabinets médicaux intégrés. Ici, les entreprises sont majoritairement implantées au centre de la ville, dans les anciens quartiers ouvriers et industriels. Dans les quartiers voisins du centre-ville, autrefois habités par les classes défavorisées, les grues et les tractopelles s'activent. Parcelle après parcelle, les promoteurs détruisent les dernières habitations populaires et bâtissent des complexes dont les prestations sont taillées pour une clientèle sophistiquée. Parmi les constructions les plus récentes, un immeuble dispose d'un potager sur son toit, d'un espace commun pour donner le bain aux animaux domestiques, d'une cuisine de démonstration où des chefs sont invités à montrer leur savoir-faire. Un autre propose une coopérative d'élevage de poulets biologiques, un solarium doté de hamacs, une salle de poker. Un troisième met à disposition un spa pour chiens et chats, du matériel pour brasser de la bière, un laboratoire de création pour les menuisiers en herbe. Les prix sont eux aussi créatifs. Le moindre studio se loue 1 500 $ par mois. Depuis l'arrivée des classes créatives, les prix de l'immobilier progressent de 10% par an. Rien n'empêche les propriétaires d'augmenter les loyers quand ils le veulent, et la ville est en train de devenir inaccessible pour les classes populaires, constate M. Fox. Il faut pourtant des serveurs dans les restaurants, des caissiers dans les magasins. Comme ils ne peuvent pas se loger à Seattle, ils s'installent de plus en plus loin, en banlieue. En effet, quasi aucun des travailleurs peu qualifiés que nous avons rencontrés, beaucoup de femmes issues des minorités, n'habitaient à Seattle. Employés de supermarchés, conducteurs pour Uber, femmes de ménage chez des particuliers, vigiles dans une banque, vendeuses dans un fast-food, guichetières dans un musée, tous devaient parcourir des dizaines de kilomètres pour se rendre au travail. Votée en 2014 par le conseil municipal, la décision de faire passer le salaire minimum à 15 $ l'heure à l'horizon 2021 ne compense pas l'inflation immobilière. La ville créative de Richard Florida se dépasse dans ses contradictions. Certaines politiques, en apparence progressistes et motivées par des préoccupations éthiques, sanitaires ou environnementales, pénalisent en fait les classes populaires. Utilisées pour attirer les jeunes talents, les incantations à la diversité ethnique et sexuelle se traduisent indirectement par un recul de la diversité sociale. La taxe sur les sacs en papier, le péage qui vise à désengorger l'un des ponts enjambant le lac Washington, pèse surtout sur les portefeuilles des garnis. Quant à l'apparition d'une piste cyclable ou d'un immeuble vert, elle présage souvent d'une augmentation de loyer. Partout, les gens s'extasient « Oh, Seattle, ce phare éclairé du progressisme !» Mais nous vivons dans une ville profondément inégalitaire. Nous ne sommes pas capables de loger nos classes populaires. Les promoteurs ont leurs entrées à l'hôtel de ville. Et comme il n'y a pas d'impôt sur le revenu dans l'État de Washington, nous avons le système fiscal le plus régressif du pays. La part du revenu des riches consacrée aux différents impôts et taxes est inférieure à celle acquittée par les pauvres, déplore M. Toby Taller, avocat à la retraite. Plus à l'est, dans l'État de Washington, dans les comtés de Grant ou d'Adams, les drapeaux arc-en-ciel sont rares, voire inexistants, tout comme les clubs de yoga et les marchands de vinyle. Dans ces zones tant rurales qu'industrielles, où ne passent que les camions traversant les États-Unis, les électeurs ont plébiscité M. Donald Trump, comme 24 des 25 comtés les plus pauvres de l'État. D'ici, le progressisme à la mode Seattle, qui promeut la diversité mais favorise un entre-soi de créatifs, qui abandonne l'industrie pour se tourner vers une société de diplômés, qui prône le développement vert alors que l'économie locale dépend de l'exploitation intensive du bois et des sols, ressemble à une incongruité. Song.
Thank you. The purple piper plays his tune. the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.
Divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. Smiles as the puppets dance in the court of the crimson.